Bonjour à tous. Vous êtes bien installés. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Je vais avant tout remercier Didier Moreau, qui est le directeur de l'espace Mendès France, qui a bien voulu nous accueillir et nous a fait confiance pour ce congrès. Je remercie aussi son équipe, tout aussi sympathique qu'efficace, Madame Christine Guiton et Monsieur Cyril Martin et toute son équipe. Je remercie aussi l'agence touristique de la Vienne qui nous a accompagnés pour l'enregistrement des inscriptions. Merci aussi au fidèle et constant comité d'organisation, Madame Isabelle Bafou, Madame Catherine Chambou-Alès, Madame Claire Malka, Jean-Luc Pfefferkorn, et merci au soutien très important de Dominique Blais et Bernard Giraudon. Je vais remercier tous ceux qui, dans la proximité poitevine et professionnelle, nous ont soutenus et ont cru en l'OFMP. Fiducial Expertise, les thermes de La Roche-Posay, le laboratoire ConvanTech, la MACSF, la Médicale de France, D-Médica, la Ligue contre le cancer et la cave Empelidae. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit vin local que vous pourrez goûter demain à la clôture du congrès. Je remercie les associations médicales et les sociétés médicales qui se sont portées partenariat de l'OFMP. La société médicale Balint, la société française de rhumatologie, la société française de psycho-oncologie, Association Sciences Humaines et Santé et la Fédération Française de Psychiatrie. D'autres associations, d'autres sociétés savantes et médicales sont en cours de partenariat. Merci à vous pour votre présence à cette rencontre qui a été organisée à la suite d'une réflexion collective écrite dans le manifeste de la médecine de la personne, sous l'impulsion et la direction de Simon Daniel Kipman, lui-même membre du Collège international de la médecine de la française, de la médecine de la personne, pardon, et dont le secrétaire est le professeur Juan Mezich, ici aujourd'hui parmi nous. Ce premier congrès est volontairement modeste et très pluridisciplinaire, afin de réunir toute personne ayant affaire avec le soin dans la volonté d'indépendance et de réflexion. Vous êtes parfois venus de loin, Suisse, Belgique, Québec, autres régions en dehors de la région Poitou-Charentes. Vous êtes patients, soignants de toutes compétences, bibliothécaires, socio-esthéticiennes, aides-soignants, infirmières, paramédicaux, psychologues, etc. Je vous remercie de vouloir vous impliquer ensemble autour de la médecine de la personne. Porter soin relève d'une relation complexe entre des personnes nourries de connaissances, de praxis, de techniques, et cela à voir et surtout avec des valeurs de haute humanité. Porter soin nous implique tous, nous soignants, quelles que soient nos compétences et notre histoire professionnelle, vis-à-vis de la personne qui, elle aussi, a une histoire, ce que nous ne pouvons occulter. Nous sommes plusieurs, à différents niveaux et voies, dans cette recherche et histoire de soins. Et c'est bien ce que nous allons tenter de révéler au travers de nos réflexions ensemble, au travers aussi du parcours de la maladie et du sens recherché de la guérison somatique ou psychique, c'est-à-dire travailler selon cette pluralité et cette diversité. Enfin, nous tendons tous vers l'avenir, coûte que coûte, nourris de nos cultures, de nos origines et de nos liens avec les autres, parce que nous sommes sans cesse en mouvement, dans une volonté de vie à respecter, parfois à dévoiler et aussi à transmettre. Et ceci dans le temps, l'histoire, l'intimité de chacun, que l'on soit soignant ou patient. La médecine de la personne tente peut-être de faire tomber des lieux communs, des distances, des cloisons, et révèle surtout la nécessaire proximité, l'enveloppe sociologique des uns et des autres qui, au travers du soin, se rencontrent et, grâce à la science et à la technique, partagent le désir de se soigner et de soigner. Je vous souhaite à tous un bon moment, convivial et riche. Et je vais passer la parole à Monsieur Didier Moreau, qui va vous dire quelques mots de bienvenue.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Très rapidement, vous dire le plaisir que nous avons à vous accueillir pour ce congrès francophone. Vous rappeler pour certains d'entre vous qui êtes poitevins que vous êtes dans un centre de culture scientifique et technique, et la complicité, les liens avec la ville de Poitiers ont permis, une trentaine d'années après le lancement de ce centre, d'en faire un lieu de débat, de réflexion, mais aussi un lieu d'échange avec nos citoyens. Simplement, si vous êtes ici, si le contact s'est aussi bien passé, c'est qu'il y a un terreau autour de notre activité, de notre action. Chaque année, 60 000 personnes viennent dans ce bâtiment, parfois de très loin. Et en région, nous avons une série d'actions, pratiquement 50 000 personnes en 2013, qui nous permettent de divulguer ce qui se passe en milieu urbain, en milieu universitaire comme à Poitiers, auprès de nos concitoyens dans des villes qui sont un peu plus éloignées géographiquement. Tout ça pour vous dire que quand on parle de science, de technique, il y a un besoin énorme de dialogue avec le public. Et il y a un besoin énorme d'échange avec celles et ceux qui, au sein des communautés scientifiques, techniques, médicales, sont en train de faire avancer la connaissance. Ce lien, ce tissu de relations, nous le menons depuis très longtemps. Cette salle accueille 180 conférences et débats par an. C'est presque 20 000 personnes par an dans cette salle. Pour vous dire qu'il y a un mouvement qui s'est créé autour de cet établissement et que ce mouvement, il a beaucoup évolué. Je terminerai là-dessus, puisque en présentant le colloque, il y a deux mots que Brigitte a cités. C'est le mot pluridisciplinarité et le mot science et technique. Cette notion de pluridisciplinarité, c'est une évidence pour nous. C'est peut-être une évidence pour vous, mais absolument pas pour nos concitoyens. Il faut relier les choses entre elles. Donc cette mise en relation, elle doit se faire par la présence de personnalités, d'experts qui viennent à cette tribune et qui se plient au jeu du dialogue, du question-réponse, pour pouvoir sortir de ce débat, de ces questions, pour pouvoir en sortir quelque chose qui relève de la relation entre science et citoyens. Donc cette maison le mène au quotidien, jour après jour, et simplement si je regarde l'évolution des choses, il y a 20 ans, dans cette maison, on parlait de vulgarisation scientifique, on parlait beaucoup de maths, de physique, de chimie, etc. On en parle toujours, mais on parle aussi de tout le reste, des sciences de l'homme et de la société. On a une dizaine de conférences chaque année autour des questions de psychologie, de psychiatrie. Vous avez derrière moi une affiche concernant les questions liées au cerveau. Nous inaugurons la semaine prochaine quelque chose sur le cerveau et les addictions. Donc on voit bien que les besoins de science, ils ont évolué. Nos concitoyens ont besoin de ce dialogue. Ces maisons participent à ce dialogue. Donc tout le plaisir de vous recevoir s'inscrit dans cette démarche. Parce que là, sur deux jours, vous allez faire avancer la connaissance à travers vos doutes, vos questionnements, vos interrogations. Et de ce corpus d'échanges, on en relèvera sûrement des choses. Et ensuite, il faut le divulguer auprès de nos concitoyens. Donc, merci de cette présence. Bravo à vous pour cette organisation. Et sachez qu'on reste à vos côtés pour ce travail qui, finalement, relève d'un dialogue expérimental. Merci.
Merci à vous. Merci. Et puis, je vais remercier aussi les soutiens importants que nous avons eus pour l'organisation de ce congrès et pour l'OFMP. Donc, avant tout, je remercie la région qui nous a soutenus dernièrement. Et je vais remercier monsieur le maire, le député maire, monsieur Alain Claès, qui depuis le début nous a soutenus et a cru en notre projet. Donc, monsieur Claès, si vous voulez dire quelques mots.
Merci, Madame la Présidente. Moi, je suis très, très heureux de passer quelques instants avec vous, car je retrouve des têtes connues et des personnes qui m'ont, dans mon cheminement parlementaire, apporté beaucoup de choses. Je ne reviendrai pas sur le rôle que cette maison joue pour faire le lien entre nos concitoyens et les progrès scientifiques. Je pense que dans cette période où on s'interroge sur le progrès, on s'interroge sur des avancées scientifiques, il faut des lieux comme celui-là, un lieu transversal où on peut échanger et on peut cheminer ensemble. Je pense que c'est très important. Alors, ce colloque, c'est amusant. Lorsque vous m'en avez parlé, j'ai tout de suite dit oui, il faut de l'organiser à Poitiers. Et je voudrais, à travers vous, remercier toutes celles et tous ceux qui vous ont aidé à construire ce colloque. C'est un sujet essentiel aujourd'hui. Et il se trouve que dans le cadre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, nous avons, avec mon collègue Vialat, rendu un rapport récemment sur ce qu'on appelle la médecine personnalisée. L'expression, les termes peuvent conduire à un débat. Certains d'autres parlent de médecine stratifiée. Bref, cette médecine qui est en train de naître, on ferait du sur-mesure. On ferait du sur-mesure en fonction des pathologies, en fonction des caractéristiques génétiques des individus. La question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette médecine personnalisée ou stratifiée ne va pas éloigner les intervenants de la personne à soigner ? Donc c'est un sujet, à mon avis, qui est extrêmement important. Et quand je vois les visages qui sont ici, les visages que je connais de Poitiers, on voit qu'à travers ces personnes qui sont là, c'est différents intervenants à des niveaux différents qui peuvent apporter des choses à ce colloque. Permettez-moi de saluer tous ceux qui ont accepté de participer. Je revois le professeur Gilles avec plaisir. C'est mon voisin. Et je voudrais avoir un mot particulier pour le professeur Sicard, qui est ici. Car le professeur Sicard m'a apporté beaucoup de choses. J'ai eu une chance importante dans ma vie parlementaire, c'est de siéger au Comité national d'éthique de 1997 à 2002, alors que le professeur Sicard était président de ce Comité national d'éthique. Vous avez fait un travail extraordinaire. Votre humanisme, votre capacité sur des sujets aussi complexes qu'on a eu à aborder, d'avoir cette vision globale, transversale, a été un apport considérable. Et moi, je me suis réjoui quand M. le Président de la République vous a confié ce rapport sur la fin de vie. Vous avez fait un rapport qui sera utile pour les parlementaires quand, dans quelques semaines, quelques mois, nous allons essayer, dans une démarche consensuelle, de faire peut-être progresser la loi Leonetti. Donc je voulais vous remercier personnellement et j'aurai plaisir à rediscuter avec vous. Mais dans ce rapport aussi, vous avez dit des choses importantes. Et moi, ce qui m'avait marqué quand nous en avons discuté ensemble, c'était la place de cette dernière partie de la vie et voir si cette dernière partie de la vie concerne les soignants. Et sur la mort, quand vous interviewez à l'époque des jeunes professeurs ou des jeunes médecins, les réponses parfois ont été étonnantes. Et je pense que tous ces sujets sont des sujets extrêmement importants. Merci d'être là et je suis convaincu que vous apporterez beaucoup. Voilà, madame, je ne veux pas être plus long. Je vous souhaite une très très bonne journée. Malheureusement, je ne peux pas rester avec vous, car il ne nous a pas échappé aussi que la démocratie a des rythmes. Et le rythme de la démocratie, ce sont des élections municipales. Et je dois aller encore faire quelques petites choses. Parce que si on veut être utile et respectueux, il faut essayer de convaincre jusqu'au dernier moment. Très bonne journée et très bon colloque.
Merci beaucoup à Monsieur Claes. Et merci. Je vais continuer dans mes remerciements et maintenant je vais remercier donc Monsieur Claude Berthaud, le président du Conseil général, qui nous a aussi soutenus depuis le début. Lui aussi est pris dans des obligations. Il a donc délégué sa présence auprès de Monsieur Roger Gilles, ici présent. Donc, dans la région et sur Poitiers, tout le monde connaît Monsieur Roger Gilles. Je vais dire quelques mots sur vous, si vous le permettez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui sont hors de Poitiers. Monsieur Gilles est donc le doyen honoraire de la faculté de médecine et de pharmacie de Poitiers. Il est professeur émérite de neurologie à l'université aussi donc de Poitiers et responsable de l'espace éthique au CHU de Poitiers. Il est auteur de nombreux ouvrages, articles en neurologie et neuropsychologie. Et il a écrit, ce qui nous concerne aussi beaucoup aujourd'hui, la maladie vieillissement et la maladie d'Alzheimer, comprendre pour accompagner aux éditions L'Harmattan. C'est une courte biographie, mais ça permet de vous présenter un petit peu. Je vous laisse la parole, Monsieur Gilles.
Merci, madame. Une collectivité territoriale dont la mission s'inscrit dans la proximité, et plus particulièrement pour un conseil général dans le cadre du handicap, du vieillissement, de la dépendance, ne peut qu'être sensible à une réflexion sur la médecine de la personne. Le président Claude Berthaud m'a demandé de témoigner de l'importance qu'il accorde à une médecine de la personne et à l'organisation ici de ce premier congrès francophone organisé par l'Observatoire de la médecine de la personne et dont on sait combien il a mobilisé son président, M. le Dr Kipman, et sa vice-présidente en résidence à Poitiers, Mme Brigitte Grèce, ainsi que les membres du comité d'organisation, qu'ils soient chaleureusement remerciés. Merci aussi, M. Sicard. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je vous connais bien sûr par votre activité, pour votre présence. En revêtant maintenant ce que je suis et que je n'ai jamais quitté, c'est-à-dire être médecin, je me suis longtemps interrogé, comme si vous m'aviez posé un sujet de dissertation, pour cerner ce que pouvait être le passage de la pratique à la théorie et de la théorie à l'organisation. La théorie apparaît ainsi comme un pivot. Il apparaît deux fois dans votre séquence. Un pivot d'où naîtraient deux courants, l'un qui irait de la pratique à la théorie et l'autre qui irait de la théorie à l'organisation. Donc un courant que j'ai vécu comme centripète, de la pratique à la théorie, bottom-up, et un autre courant de la théorie à l'organisation, top-down. Cette règle du jeu proposée par l'Observatoire francophone de la médecine de la personne invite donc d'abord à considérer la médecine de la personne comme une pratique en quête secondaire d'une théorie. C'est effectivement cette démarche qui prévaut dans les rencontres organisées par l'espace éthique régional dans des cafés éthiques où un groupe de soignants vient présenter une situation singulière qui a éprouvé l'équipe de soins dans son accompagnement ou dans ses choix décisionnels. Et cette équipe vient partager avec les participants son questionnement, ses doutes, ses hésitations. Telle est cette démarche qui est bien une médecine de la personne, celle dont le mouvement s'inscrit d'abord dans ce mouvement de soi vers autrui, cher à Paul Ricoeur. Et évoquer un mouvement, c'est évoquer d'abord une émotion. Si l'homme est un être au monde, c'est d'abord parce qu'il est un être à l'autre. Interrogé au plus profond de la phylogénèse par le comportement de l'autre. Comportement de l'autre face à lui, autre rassemblé dans une gestualité, un visage, un regard, des paroles qui, avant de dire des concepts, disent des intonations émotionnelles, des vécus émotionnels, des musiques émotionnelles, consonantes ou dissonantes. Et ces émotions s'appellent joie, tristesse, colère, peur, dégoût, surprise, émotions fondamentales qui vont s'organiser ensuite en harmoniques variées, parfois subtiles, et qui vont organiser, au-delà de l'aptitude que nous avons tous à reconnaître les émotions d'autrui, à faire un pas de plus vers cette capacité, d'abord portée par nos neurones miroirs, à partager les émotions d'autrui, à les vivre. Telle est, en neurosciences, ma spécialité, l'une des définitions de l'empathie. Dans la relation de soins, la maladie, les techniques biomédicales peuvent agir comme un voile qui vient protéger la quiétude émotionnelle du soignant. Une médecine de la personne est précisément une médecine qui appelle à ce déchirement du voile pour que les soins prennent en compte cette sollicitation émotionnelle qui fonde la relation humaine. À la source de l'empathie, il y a, on l'oublie trop souvent, dans un monde peut-être trop occupé encore par le siècle des Lumières et sa froide raison, on oublie qu'à la source de l'empathie, il y a une angoisse que l'on redécouvre aujourd'hui. Une angoisse qu'il y a 50 ans, on appelait une angoisse morale, qu'on appelle maintenant une angoisse éthique. Non pas cette angoisse pathologique qui fige, mais une autre angoisse, à la fois tension et crainte, déclenchée en nous par la présence de l'autre vulnérable qui nous déstabilise et qui peut aujourd'hui être lue, cette déstabilisation heureuse, comme une source de cette prise de conscience qu'est l'engagement, comme un moteur pour l'action dans ce souci d'autrui qui porte la relation de soi. Et c'est cette angoisse qui aussi porte le questionnement du « comment faire pour bien faire ?» aujourd'hui de plus en plus partagé dans un exercice collégial et on devrait dire multidisciplinaire, ce que peut-être aurait pu écrire la loi Leonetti au lieu de collégial, et qui, de la pratique avec ses émotions fondatrices, questionne les valeurs qui nous mobilisent. Voilà le mouvement ascendant. C'est notre pratique qui va questionner des valeurs, qui va nous aider à problématiser les conflits de valeurs. Et c'est dans ce mouvement ascendant, dans ce mouvement de type bottom-up, que l'on passe de la pratique à la théorie. Mais aujourd'hui, les soins ne restent pas confinés à la pratique clinique, celle où s'organisent les relations humaines. Ils nécessitent aussi une organisation en termes de santé publique. Du système de valeurs conforté par la pratique des soins, alors la théorie, de manière descendante, propose des organisations en termes de santé publique et dont certains thèmes seront abordés aujourd'hui, comme la formation, l'information, la gestion de la fin de vie, dont on voit combien elle préoccupe les parlementaires. L'organisation en termes de santé publique est convoquée d'ailleurs par l'implication de la solidarité nationale, comme par le souci des États de réguler les comportements par des lois dont il faudrait, après avoir voté, se demander comment elles peuvent être appropriées par les citoyens. Et aussi se demander ce que les lois disent de ceux qui intéressent seulement, ceux qui pratiquent un peu d'éthique, c'est quelle anthropologie elle dit. Toute loi tient un discours sur l'homme. Les lois françaises disent un discours sur l'homme tel qu'il est conçu en France. Cela, il ne faut jamais l'oublier. Mais une organisation suppose nécessairement des objectifs utilitaristes ou conséquentialistes, c'est-à-dire qu'ils visent au plus grand bien pour le plus grand nombre que peut faire une organisation d'autres. Une organisation s'évalue surtout par des statistiques qui souhaitent montrer dans quelle proportion les objectifs visés ont été atteints. les organisations peuvent ainsi démobiliser les consciences délibératives pour s'en tenir au respect des règles conçues comme un nouveau code moral, ce qui peut protéger de l'angoisse éthique. J'applique les règles, je suis en règle. Dès lors, comment réintroduire dans ces comportements régulés la prise en compte d'une médecine de la personne? Les débats de ce congrès pourront apporter des pistes de réponse, à condition que les organisations ne soient pas conçues comme un système vertical descendant de type top-down, mais qu'elles se laissent interroger et évaluer par la pratique. C'est à l'humilité des organisations face à la complexité de ce qu'elles veulent réguler de manière simple que la médecine de la personne appelle effectivement à réfléchir. Encore faut-il que les organisations ressemblent à la vie et acceptent une remise en question, car ce n'est que dans l'insatisfaction et avec un peu de souffrance que la médecine de la personne peut puiser ses forces pour tenter de faire advenir peut-être un monde meilleur.
Merci, Monsieur Gilles. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Juan Mesich, qui est ici parmi nous. Il y a un problème de clé. Voilà. Je vais vous présenter Monsieur Juan Mesich, qui est donc le fondateur et secrétaire du Collège international de la médecine de la personne. Il est aussi président de l'Association mondiale de psychiatrie. Il est professeur de psychiatrie et directeur de la division d'épidémiologie psychiatrique et du Centre international de santé mentale à l'école de médecine de Mount Sinai à New York. Il est docteur honoris de plusieurs universités dans le monde et auteur et co-auteur de revues, de publications, de livres qui sont publiés en Amérique et en Europe. Monsieur Mesich étudie la nouvelle classification internationale et les systèmes de diagnostic, le DSM-4, et le développement de l'éducation et de l'évaluation de la recherche de son impact sur les soins cliniques. Monsieur Juan Mesich va nous parler. Vous avez tous en main la traduction de sa petite introduction et de l'historique de la médecine de la personne, en anglais et en français.
Bonjour, monsieur et madame. I'm a little bit uncomfortable speaking in this Francophone Congress in English. But perhaps this can allegorize the fact that we are in a small village in the world, and some of these ideas that L'Observatoire Francophone de Psychiatrie de la Personne is starting so brilliantly with Madame Grice and Dr. Kipman really is an effort that is developing across the world. I will speak for a few minutes about the beginning of this experience, which actually has roots that are very old as humanity in a way, and how the itinerary of this journey has been a journey that will never end, is similar to the journey to Ithaca, and where the destination is not as important as the journey itself. And in its process, we try to find new ideas that could, from the practice, inform theory, and from theory to organization, as so brilliantly conceived by the leaders of this Congress. So I will refer to some of the roots of this initiative, some of the developments in the modern world, and then more specifically the institutional efforts that are being carried out in order to move forward these ideas and to bring them to practical reality, as well as some of the next steps that we anticipate. This is the Ankh from pharaonic Egypt, the symbol of life. To allegorize that when we talk about medicine, we are talking not only about a profession, but about health, and even more about life. And the concept of health and life in ancient civilizations, as we know, has been very comprehensive. This is true in Chinese medicine, where the yin and the yang were conceived as fundamental to be able to have an adequate understanding of health. In the Ayurvedic medicine, you have the sense of equilibrium as very important. In African civilizations, you have the concept of rhythm as fundamental for health. And then in Western civilization, the cradle of which tends to be recognized to be Hellenistic philosophy, we have Asclepius as the god of medicine and Hygieia as the goddess of health together. Also, proposing this view that if the whole is not well, the part cannot be well, as Socrates said. And these old concepts that were not only theoretical, but the way medicine was practiced continues to be very alive in today's world. In China, in India, but also in traditional societies. And these ideas have been recognized and enshrined in the definition of health that the World Health Organization, since 1946, has been proposing. As we know, that health is not just the absence of disease, but a state of full physical, emotional, and social well-being. And so, talking about organizations, we see that a number of important ones have been developing initiatives that are relevant to this idea of responding to the responsibilities of current life with all the technological developments that we have had, which have been so wonderful to improve our understanding of disease, adding to our repertoire of diagnostic and therapeutic tools, but at the same time, we find a serious problem. As Iona Heath, president of the Royal College of General Practitioners, has said so well, advancement of disease, distortion of medicine. Because in the process of finding new paths to understanding disease, we have at the same time become very compartmentalized, even commercialized, and we have neglected some crucial elements of medicine and health since old times, such as the relationship between the doctor and the patient, the relationship among professionals in the team, the need to work together, the relationship between the healers, the health professionals, and the patient, and the family, the community that repeatedly wants to be seen not only as instruments, as carers, as carriers of disease, but rather full human beings with a past and a future. And that's why when we talk about medicine of the person or medicine de la personne, we need to make sure that we do not get derailed in some other perspectives that are very interesting as well, but are not fully in this line, such as so-called personalized medicine, which is mainly genomic. It's very interesting in the sense of trying to find unique patterns of disease and which may enhance treatment that way, but that, however, that do not look at the whole person. That's why in some corners of the world now people are talking about medicine of the whole person or whole person care. The World Health Organization, again, that has given us the definition of health, which continues to be very valid today, perhaps even more valid than when it was started in 1946. Also, more recently, in 2009, approved a new perspective that they call people-centered care, related to the public health functions of the World Health Organization, but very clearly conversant with the idea of the person or persons in the community. Likewise, the World Medical Association, from the beginning, has been a strong supporter of this perspective, and at its General Assembly in this fall, they plan to approve a new statement in support of person-centered medicine. The World Organization of Family Doctors has been also, as pediatricians have been, and as geriatricians also, very much behind this idea of person-centered medicine. The World Psychiatric Association, likewise, but in a perhaps interesting way that is related to the Francophone effort. Because the World Psychiatric Association started in Paris in 1950 with the idea of articulating science with humanism. And this combination, where science is essential, but humanism is the essence of medicine, has been informing the work of this large association with 130 medical societies, and Dr. Kiffman was the founder of the French Psychiatric Federation as an effort to, as he so masterfully does in many areas of work, could work together, French societies, within the assembly of psychiatric societies, 130 of them presently. This association, the World Psychiatric Association, in 2005 started a new institutional program, namely a program that committed all its components on psychiatry for the person. And this movement had conferences in major cities to develop its theories and concepts and procedures. But one of the most important ones was in Paris in 2008, in February 2008. And here it brings us again to Francophone professions and the role of of France and Francophone colleagues in this process. And the World Psychiatric Association, through its communication with other similar societies, such as the World Medical Association and the World Organization of Family Doctors and the International Council of Nurses and the International Federation of Social Workers and the International Federation of Pharmacists and the International Alliance of Patients Organizations, based in London, has been then moving this forward, not just restricted within the mental health field, but expanding it to the whole of medicine. In fact, to the whole of healthcare. In fact, to the whole of health as a human responsibility and a privilege. This is a historical photograph at the Grand Amphitheatre of the Sorbonne, where the World Psychiatric Association was born, informed by this articulation of science and humanism. The first one is a major conference in London about a new concept of diagnosis, not only a diagnosis of illness, but a diagnosis of health. And the Paris conference I was mentioning before, in February of 2008, in collaboration with all the member societies of WPA in France. There are several of them because WPA was born in France and therefore had opportunity to engage several societies and not only one. And that is why it was so brilliant, the idea of Daniel Kipman, to put all of them together so they could work in a more effective way. Also, the Pinel Prize, the first prize for psychiatry for the person, is in homage of Pinel, the liberator of mental patients from their chains. But he did more than that, you know, because he was a humanist and not only a good scientist, and therefore provided inspiration also for this new perspective. So it is very appropriate to cultivate person-centered medicine with particular reference to the contributions of French and Francophone colleagues. This is the cover of a beautiful book published by the World Medical Association, paying homage to so-called caring physicians of the world. Not only scientists, but people who care and therefore inspire trust. That is a fundamental element of a good doctor-patient relationship. And a few months after the Paris conference, we had our first annual conference in Geneva, the city of encounters, as the people from that city talk about the place where they live, and also because of many of the global professional organizations being located in Geneva or near Geneva, including also the World Health Organization. The first one was on exploring the concept of person-centered medicine. We then found that while some of us were, we started this movement, were not in the leadership of the World Psychiatric Association anymore because we finished our period of responsibility, we had to establish a new organization to assume legal responsibility for the conduction of this process. And so we established the International Network of Person-Centered Medicine that is registered in New York, and that used the figurine of the Cycladic Islands, one of the oldest civilizations in the world, to replace the stack of Esculapius, you know, around which the snake, the, one of the major symbols of medicine, wraps around, and also use the purple color, another of the symbols of medicine. The second Geneva Conference, also in May, but in the year 2009, tried to move our discussions from the concept to the to practice. And at that time, another very important development happened, which was that the World Health Organization produced the year before, for the first time, their annual World Health Report devoted to what they call a new strategy for health, a kind of a new examination of the Alma Ata Declaration of Health for All that unfortunately didn't work, as we know. So they wanted to try again. But this time, as they said, we want a medicine that is not veterinary, but human medicine. And to do that, for the first time, they used the term people-centered care. And for the first time, then, they formally co-organized the Geneva Conference, as they have been doing since then every year. And more organizations also joined. The first conference had 10, and the number has continued growing year to year. On the third edition of the conference, the idea proposed by WHO was to look at work in as teams, and not only in terms of disciplines and specialties, but also health programs. The fourth Geneva Conference dealt with a very complicated issue, namely how to combine the idea of clinical medicine, person-centered clinical medicine, which is based on a one-to-one relationship, to people-centered public health, where communities are the subject. And also at that time, we started an international journal of person-centered medicine with the support of the Buckingham University Press in the United Kingdom, which now the journal is in its fourth year of life. The fifth Geneva Conference focused on a problem that now is recognized as perhaps the major problem in public health, namely chronic diseases, which are responsible for more than 70% of both morbidity and mortality, and which, because of the nature and the risk factors involved, fundamentally requires that people get involved and committed to assume responsibility for their own health, without which there is no hope that any professional efforts could have any possibilities of success. And the sixth Geneva Conference, our latest one last May, was focused on research so that the theories and practices that we are developing could have validation and therefore have increased the possibilities that we are not deluding ourselves. And also, recently, at the same time of organizing these discussions or forums in Geneva, we have been issuing Geneva declarations on the main topic of the conference to extend the main theme of the conference. In 2012 was person-centered care for chronic diseases, and in 2013, person-centered health research. And trying to move forward in this walking, the walk, and finding it as we walk. For the first time last November, we had our first International Congress of Person-Centered Medicine in Zagreb, selected because the founder of the public health school at Zagreb University is was the president of the World Health Assembly that coined that definition of health that we know. But also because they have a number of efforts and groups to develop, to articulate and put into practice the idea of person-centered medicine. For example, in November, we were received by a choir of about 20 people who have been laryngectomized because of cancer of the larynx, who, however, showing the power of the human spirit, they sang for us the Ode to Joy of the Ninth Symphony of Beethoven. And one could ask, well, why the person in particular, and not, say, self, for example, or the individual? Well, we selected person, as also other organizations that are connected to the international network and college, such as the L'Observatoire Francophone de Psychiatrie de la Personne, have recognized that person has very special attributes. It is rooted in the wisdom of all civilizations that, as mentioned before, have always had a broad concept of health that relates to taking care of persons. Also, the complexity of person that was referred to by the authorities that spoke earlier this morning as one of the main challenges to engage complexity. Makes relevant to talk about, to use, to focus attention on the person who is par excellence an example of complexity. A complexity not only in its elements and depth, but also in several other key factors. One is the sense of agency that person implies. And therefore, the possibility of engaging that autonomy to assume responsibility for our own health. And last but not least, because of ethical reasons. Immanuel Kant has said that the main law in ethics is the dignity of the person, that the person should never be seen as a means, but always as a end, as a goal. So respecting the dignity of the person and promoting the autonomy of the person as are some of the central features of ethics today. But furthermore, we wanted to focus on the person because the idea is not only the person of the patient, but the person of the health professionals, person of the family and other carers, and by extension, the persons of everybody in the community. So the keystones for person-centered medicine is this historically holistic framework that they have referred to, the articulation of science and humanism, but in a hierarchical way. Science is an essential tool, and humanism is the essence of our profession, the reason why we have decided to become health professionals, because we want to help other human beings, and where this vocation of service becomes an expression of spirituality. And the contextualization and continuity of care, which makes it practical and effective. So we sometimes talk about a medicine of the person, of the totality of the health of the person. Ill health, but also positive health. Resources, functioning, and quality of life. For the person, namely to promote the fulfillment of the person. And one of the most interesting ways to do that seems to be the idea of promoting the life project of the person. By the person, where the health professional displays himself or herself as a well-trained, scientifically competent professional, but also with high ethical aspirations. And with the person, namely in a respectful and empowering relationship with the person who presents asking for help. As now it's becoming common to say, nothing for me without me. And now coming to the close of my presentation, some studies that we have conducted in recent years to try to find, using a number of consultational techniques, what are the key concepts of person-centered medicine has yielded these 8 elements. One, ethical commitment, particularly this promotion of the life project of everybody who presents for evaluation and care. Cultural sensitivity, given the diversity of our world. Holistic scope, biopsychosocial, cultural, and spiritual, to understand both illness and positive health. Relational focus at all levels, doctor-patient relationship, among all members of the healthcare team, and the relationship with the patient and the family and the community. Individualized care, namely against standardization of care that could fit everybody in a rigid way, but while taking information about the importance about groups, which is one of the ways in which science moves around, but also realizes that that program of treatment has to be adapted to the particular needs and wishes of the person who presents for care. Another very important new element is common ground for diagnosis and care, where diagnosis becomes a joint understanding of the situation, and care is based on shared decision-making. And then two elements that are more related to the whole system, people-centered systems of care, where the community is involved in determining the shape of the health programs, and where education and research are promoted as fundamental support activities for this perspective of person-centered and people-centered care. An example of techniques, we know in medicine we just not work with ideas, but we have to have tools, because medicine is an interventional activity. It's not a contemplative one. And one of the key activities is diagnosis. And so the model that we are developing has 3 levels: health status, the description of health, both at the ill health and the positive health level. Second, the contributors to health, risk factors and protective factors. And this is a clear innovation, the expedience of health, namely the consideration of the individual's values and wishes when he comes to care, which may not coincide completely with the goals of the professionals who receive him or her. As an example, or a practical example of the success of this approach, I'd like to share with you the cover of the recent Latin American Guide for Psychiatric Diagnosis, now is the official guide in Latin America, that uses this new diagnostic model to not only culturally inform its description of illness and positive health, but personalizes it. And therefore is a step, a practical step to achieve person-centered medicine and health. And finally, the next 2 events for which I would like to invite you cordially to join us. The next Geneva Conference on Person-Centered Medicine, not far away from this town, in Geneva, will be the end of April. The conference having as a main theme person and people-centered integrated care for all, which is the main theme of the program of work of that World Health Organization for the next 5 years. And at our second international congress after Zagreb will be in Buenos Aires, the Iguazu Falls and Tango as allegories, where advancing humanistic and interdisciplinary healthcare will be the main thing. I hope that you consider joining us either at these events or through our journal, and in such a way that we can together build and develop this path of person-centered medicine and health. Thank you very much for your attention.
Merci beaucoup. J'espère que vous aviez révisé votre anglais avant de venir. Vous avez à peu près compris le fil de l'histoire. Merci beaucoup, Monsieur Mezich. Bien, maintenant, nous allons écouter Monsieur Simon Daniel Kipman, que je vais vous présenter en quelques mots. Vous avez vu que présenter la biographie de quelqu'un, c'est toujours très réducteur et toujours très frustrant. Cependant, en relatant la biographie, on cherche à montrer ce qui est l'essentiel d'une quête et des travaux professionnels de cette personne. Cependant, cette personne nous reste souvent un peu méconnue. Concernant Monsieur Kipman, je devrais prendre du temps un concept très important dans la médecine de la personne. Et pour connaître quelqu'un, il faut du temps, et vous le savez bien. Il est l'initiateur de ce congrès de la médecine de la personne en France. Et c'est une rencontre sur un mouvement, sur ce mouvement, un croisement d'idées. C'est aussi une locomotive toujours en marche, en tête de wagon plein d'idées, plein de travaux, plein d'écritures. Il a été, en quelques mots sur sa biographie, il a été psychiatre de liaison en psychosomatique et santé mentale. Il est aussi directeur de collection. Il a été rédacteur de revues psychiatriques, auteur dont le dernier ouvrage est « L'oubli et ses vertus » chez Albin Michel. Quelque chose que j'ai relevé dans sa pratique, dans sa biographie, c'est qu'il reconnaît la valeur des praticiens dans une pratique quotidienne et ordinaire, le tout un chacun du soignant, ce qui est assez formidable. Il est aussi, depuis de nombreuses années, il participe à l'histoire de la psychiatrie. Voici quelques mots sur M. Simon Daniel Kipman, à qui je laisse la parole.
Merci. Merci. C'est très difficile parce que maintenant, je vais vous parler en étant tout rouge de confusion. C'est un peu compliqué, mais enfin, tant pis. Au fond, je crois que ça y est, le congrès est lancé. Tout a été dit. Vous savez, c'est comme en psychanalyse, on dit souvent, tout est dit dans la première séance. Et puis ensuite, il faut des mois, des années pour décoder tout ça. C'est ce que disent aussi les scientifiques et les mathématiciens, à savoir on a brusquement une idée, une intuition comme ça, et puis ensuite, il faut des mois, des années pour remettre ça, de formuler, le mettre ça clairement, noir sur blanc, pour le valider, etc. Donc c'est un peu ce qui se passe ce matin. La médecine de la personne est là, posée, et ce qui est tout à fait impressionnant, enfin en tout cas moi ce qui m'a impressionné, c'est la largeur du spectre que nous avons à travailler, l'immensité du champ que nous avons à labourer. On est passé comme ça de l'individu à la collectivité, au petit groupe, au grand groupe. On est passé de la science la plus pure, la plus dure, la plus, on va dire, physique, pour dire les choses comme ça, à d'autres formes scientifiques qu'on appelle à tort les sciences humaines, mais enfin bon, on ne va pas pinailler là-dessus, et qui sont tous, toutes les sciences sont humaines, hein, et qui donc sont là pour essayer de montrer combien tout ça n'est pas si simple. Hein, rien n'est simple. C'est Saint-Pé qui mettait des petits dessins comme ça partout en disant rien n'est simple. Eh ben non, rien n'est simple. Rien n'est simple. Et quand on est en situation de se confronter à un événement qui n'est pas simple parce qu'il est dérangeant, parce qu'il vient troubler le cours paisible, le long fleuve tranquille et répétitif de nos habitudes et de nos vies, quand on est confronté à la maladie, d'une manière, quelle que soit la place qu'on occupe par cette maladie, le vrai problème, c'est d'essayer de ne pas réduire ce qui arrive à quelque chose d'élémentaire et de simple dans des classifications, dans des organisations, dans des types de des modes de relationnel, mais d'accepter que c'est complexe. Et ça, c'est un effort. Et ça, c'est peut-être aussi une souffrance. Alors, on va avoir beaucoup de temps de demain matin pour essayer de préciser tout ça, mais je voudrais juste maintenant vous dire quelques mots sur l'Observatoire francophone de la médecine de la personne. Il se trouve, mais ça c'est, il n'y a pas de hasard, comme vous le savez, que nous sommes à deux pas d'un planétarium dont on va reparler demain matin d'ailleurs. Et donc la question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un observatoire ? Pourquoi un observatoire et qu'est-ce que c'est qu'un observatoire ? Un observatoire, c'est tout simple, ça sert à observer. C'est un truc qui est là pour observer. Et l'exemple le plus évident qu'on ait d'observatoire, ce sont ces observatoires qui observent le ciel, hein, l'immensité du ciel. Et pour que ces observatoires fonctionnent, il leur faut des télescopes, c'est-à-dire des instruments d'optique, des instruments de vision, dont l'essentiel n'est pas qu'ils grossissent ou qu'ils... mais dont l'essentiel est qu'ils rapprochent les choses de nos perceptions, comme un microscope aussi, d'ailleurs, qu'ils rapprochent les choses de nos perceptions et qu'à partir de là, ils puissent nous donner des capacités de rationalisation et de compréhension de ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe tous les jours en médecine. On est confronté à toute une série de signes bizarres, dérangeants, inopinés. Il s'agit à la fois d'en faire la synthèse, donc la réduction, la simplification, mais en même temps d'accepter d'emblée qu'il n'y a pas une seule entrée à ces signes, qu'il ne s'agit pas de les pousser de force dans une seule explication, mais d'accepter la complexité et la difficulté. L'observatoire le plus banal, pour voir l'immensité du ciel, qu'est-ce qu'il faut ? Il n'y a pas besoin d'observatoire, il n'y a pas besoin de... on est tous les jours, qu'on fait tous les soirs, en tout cas, ou toutes les nuits, confrontés à cette immensité. Il suffit de lever les yeux et de se dire, mais c'est énorme quand il n'y a pas trop de nuages. Et en général, il y a des nuages. Ce sentiment d'immensité... Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut se dire, bon ben voilà, c'est immense, c'est très compliqué, et puis on laisse tomber, ou on peut se dire... Effectivement, c'est énorme, c'est très compliqué, mais enfin, en éclairant les choses point par point, étoile par étoile, approche par approche, je peux effectivement y comprendre quelque chose à condition, et seulement à condition, de faire des liens avec les autres étoiles, avec les autres approches, avec les autres méthodes, avec les autres situations, avec les autres cas, si on veut faire de la clinique, etc. Donc, l'observatoire, ça n'est pas une manière d'affirmer une hypothèse ou une théorie, quelle qu'elle soit, c'est vraiment retrouver à travers une organisation, puisqu'on parlait d'organisation, quelque chose de l'ordre de cette médecine de lien, mais je vais en dire un mot, de cette médecine de lien, cette médecine de liaison, cette médecine qui crée des ponts entre différentes personnes, entre différentes approches, entre différents moments, et dont effectivement les mots clés, ce serait lien et temps, lien et changement, lien et changement, lien, je peux le dire plusieurs fois comme ça, parce que je crois que c'est très important, lien et changement. Alors voilà pourquoi observatoire, pourquoi il n'était pas question pour nous de créer une association de plus qui se serait trouvée immédiatement en concurrence, en lutte de territoire ou en lutte d'impérialisme avec d'autres associations. Tout le monde peut participer à cette réflexion, tout le monde peut participer à ce travail, la vocation d'un observatoire étant d'observer, de signaler, de transmettre ses observations d'essayer de soutenir celles qui semblent intéressantes, d'essayer de dénoncer celles qui semblent vraiment pathogènes, pour dire les choses comme ça. Observatoire francophone. Pourquoi francophone ? Là encore, qu'est-ce que c'est que ce cocorico qui vient dans un contexte, et Juan Mesich a bien fait de le souligner, qui est un contexte mondial, mondialisé et international. Alors, là, je crois qu'il y a trois pistes qui nous ont poussé à créer un observatoire francophone et pas un observatoire en général. D'abord parce que nous ne croyons pas à des positions universelles. Il y a des lois de l'espèce, il y a des lois auxquelles chacun d'entre nous réagit. Nous avons tous deux mains, deux pieds, une bouche, un cerveau. D'accord. Hein. Bien entendu, il y a beaucoup de points communs entre les uns et les autres. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une seule loi qui nous régisse tous. Premier point. Deuxième point, on a vu, et ça, je pense que ça mérite qu'on s'y arrête un peu. On a vu combien la France, j'ai employé un gros mot, mais ça c'est plus ironique que sincère, le génie français a participé à cette lente élaboration d'une médecine de la personne. C'est parti, comme le soulignait Juan Mesich, d'un travail de psychiatre. Donc de la création, ça a commencé par la création d'une association mondiale de psychiatrie qui est une initiative française, ça s'est passé à Paris, à la Sorbonne. Donc là, déjà une pensée scientifique tout à fait socialement située était présente. C'est intéressant, juste pour la petite histoire, c'est intéressant parce qu'en 1950, il y avait, les Français ont contribué à la création d'une association mondiale de psychiatrie, alors que la psychiatrie en tant que spécialité médicale n'existait pas. Hein. Donc il y avait là quelque chose qui mobilisait les praticiens d'une manière intéressante. Et c'est peut-être juste un petit point à noter. Et puis on a vu aussi combien, tout au long de cette élaboration, les Français, la manière de penser culturelle présente a été là, présente, efficiente, efficace. Donc le côté francophone venait de soi comme un respect à une tradition culturelle, pas à une langue, mais à une tradition culturelle. Le deuxième point, et ça on en a souvent discuté au sein du collège, au sein de l'association mondiale et avec Juan, c'est que il y a deux façons d'aborder, comme le disait le doyen Gilles tout à l'heure, hein, très, très brillamment, c'est il y a deux façons d'aborder les choses, de haut en bas ou de bas en haut. Pour moi, il est évident que autant l'abord de haut en bas est important, est une nécessité, il est évident qu'il faut aussi, en même temps, aborder les choses de bas en haut. Et de bas en haut, ça veut dire qu'on part de la réalité quotidienne de tous ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, confrontés à la maladie, de la manière dont ils échangent. Et là, j'enfonce une énorme porte ouverte. Les malades, quels qu'ils soient, parlent entre eux en français, les praticiens parlent avec leurs malades en français, et donc si on veut avoir une véritable réflexion à partir de la clinique, troisième mot clé, de la clinique, c'est dans la langue véhiculaire du lieu où l'on est qu'il faut commencer par travailler. C'est à partir de ça, et c'est des surprises cliniques et de l'inopiné clinique, qu'on peut commencer à travailler. Donc il était important que par rapport à ce gigantesque mouvement d'idées qui mobilise toutes les grosses associations mondiales d'un peu tout, il était important qu'on retrouve et qu'on reprenne les choses à partir du bas, de la base justement, hein, et de ceux qui au quotidien vivent ces situations de santé, de maladie, de quête de la santé, de soins et de traitement. Donc francophone. Troisième point, médecine. Médecine, je crois qu'il faut être là encore être très très clair. La médecine, enfin, je le dis pour moi, je le dis pour Juan, je le dis pour la majeure partie d'entre nous, la médecine au sens le plus large, c'est notre pain quotidien, c'est notre vie, c'est vraiment là dans ce quoi nous sommes engagés. Mais on voit bien que ce matin même, la présence de politique, la présence de ce que disait le doyen Gilles, qui était quand même extrêmement proche d'une quête philosophique, combien toutes ces dimensions-là sont tout à fait présentes, et que la santé, la quête de la santé, l'amélioration de la santé est une préoccupation essentielle de toute société qui veut se tenir debout. C'est une préoccupation essentielle. Et puisque Brigitte Grèce m'a donné la permission de manifester un petit peu de colère, hein, vous m'avez permis, hein, la préoccupation de la santé est une préoccupation essentielle de toute société qui se tient debout. Et quand dans le monde d'hier, daté d'aujourd'hui donc, hein, je tombe sur quatre pages, je ne sais pas quels sont les tarifs des pages du monde, quatre pages de publie information dans ce journal dit de référence pour expliquer que la santé, ceux qui savent ce que c'est et ceux qui sont prêts à nous aider à améliorer la santé des populations, ce sont les industriels de santé, alors là, je me sens totalement déphasé. Et je crois que... c'est moi qui perds mes références. Donc il y a là quelque chose qui fait que Tout à l'heure, Brigitte disait, voilà, ce congrès, il est modeste, il s'est voulu modeste, et il est modeste par nécessité aussi, bien sûr. Hein, mais c'est un congrès modeste parce qu'on parle de ce qui nous concerne. On n'est pas en train de vendre une idée, un médicament ou une industrie ou des postes de plus. Il s'agit de repenser l'ensemble de la médecine dans la société dans laquelle nous sommes, et de la penser à travers des invariants qui courent à travers tous les postes qu'on emploie, toutes les positions qu'on emploie. Ces invariants, c'est typiquement une approche non pas idéologique, mais scientifique des choses. Donc, médecine. Médecine. Et là encore, je voudrais juste ajouter une chose. Médecine de la personne, je ne me sens absolument pas comme, responsable de ce choix. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce mot-là, mais il s'avère que c'est simplement un mot extrêmement discutable, médecine. Ça ne concerne pas que les médecins. La médecine, ça concerne la santé et tous les rapports de tout le monde à la santé, donc travailleurs de santé, aidants naturels et souffrants au sens le plus large qu'on peut imaginer. Donc c'est quelque chose de tout à fait ouvert et ouvert sur la vie quotidienne de chacun. Troisième, dernier point de ce truc, médecine de la personne. Alors bon, passons sur personne, qu'est-ce que ça veut dire la personne dans l'étymologie même, c'est le masque, c'est un masque, hein, c'est le masque des tragédies grecques, hein, c'est donc déjà une manière de se cacher. Mais la personne, en fait, si on s'en tient à ce qu'on appelle la médecine personnalisée, qui est quelque chose d'extrêmement important, le diagnostic, puis les prescriptions sur mesure, c'est fondamental. Il faut bien entendu tenir compte de la personne contre ou malgré les règles édictées. Mais ça n'est qu'un pan de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire que, et j'aurais bien voulu retrouver la diapositive de Juan Mesich, il s'agit d'une médecine pour une personne, par une personne, parce qu'on n'est pas dans ces situations-là, quelle que soit la position, je le répète, on n'est pas dans ces situations-là sans implication personnelle, sans émotion personnelle, sans référence à son histoire personnelle, donc par une personne. Et évidemment, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler demain, l'épuisement de tous les aidants, travailleurs ou aidants naturels autour des malades, l'épuisement sont des dimensions tout à fait importantes, et la prise en charge collective de cet épuisement est aussi une dimension importante. Donc on est là dans quelque chose d'une immensité et avec des personnes, ce qui nous conduit, je le dis comme ça juste et comme ça comme une indication, parce que d'abord il n'y a pas le temps, et puis ensuite qu'il s'agit là de lancer les questionnements, ça nous oblige à rompre avec une idée reçue qui nous tient et qui nous fait marcher depuis des centaines d'années, à savoir que la médecine, la relation soignante, serait un dialogue singulier. Ça n'est pas vrai, hein, qu'on se le dise, c'est un mensonge. On n'est jamais seul, on n'est jamais seul, parce que les choses sont trop compliquées, revoilà la complexité, trop compliquées pour qu'on puisse tout savoir tout seul, pour qu'on puisse tout décider tout seul, et les choix collégiaux, ou quel que soit le nom qu'on leur donne, ça devient quelque chose d'une nécessité, le travail en équipe, et le travail avec le malade, le patient, appelez-le là encore, le client même si vous voulez, peu importe, avec toutes ses connexions à lui. C'est-à-dire que ce travail-là n'est plus du tout une sorte d'élaboration d'une relation de confiance, de domination ou d'interaction à deux. C'est entrer dans un tissu relationnel extrêmement compliqué pour lequel nous avons besoin. Nous avons besoin, et encore aujourd'hui, de quelques références, de quelques invariants scientifiquement élaborés et scientifiquement prouvés. Voilà en gros ce que je voulais dire. Nous allons là, et je ne veux surtout pas anticiper sur ce que je vais dire demain, qui est d'essayer de faire un résumé de ce qui va se dire pendant cette journée et demie, mais je pense que je veux juste maintenant vous dire, est-ce que vous vous rendez compte un instant de l'immensité de la tâche dans laquelle vous avez mis le doigt. Merci.
Merci. C'est aussi pour ça que, comme Simon, Daniel parle de beaucoup de choses, de points, d'étoiles, sachez que demain, il y aura une petite séance au planétarium pour voir les étoiles. Voilà, ça pourra peut-être illustrer tout ce travail. Aussi, je voulais dire que tout au long de ce congrès, il y a deux écrans à l'accueil où il y a des paroles qui sont un texte qui défile. C'est l'atelier de parole de Catherine Chambou-Alès qui a travaillé avec des soignantes sur des paroles de patientes. C'est assez intéressant. Je vous recommande de regarder ça. Ça va se dérouler tout le long, en continu. Merci. Je vous propose d'aller à la pause café si vous avez des questions à poser. Ou... Voilà. Ah bon.